Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et c'est la suite du Grand Matin, il est 8h46 et les grands débats ce matin avec nos éditorialistes du jour, hein, Lydia Guirous qui est avec nous, Christine Bouillot et vos appels, vous, au 0826-300-300. On va revenir sur le match peut-être Zemmour-Marine Le Pen.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une balise, hein, on l'a évoqué ce matin, une sorte de comparatif entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Frédéric Dabi est avec nous. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Directeur général.
Bonjour,
oui, du groupe IFOP. Que ressort pour les auditeurs, on en a parlé tout à l'heure, mais redites-nous ce qu'il ressort de cette balise.
Alors, deux éléments dans cette balise. D'abord, un souhait de qualification d'Éric Zemmour au second tour de la présidentielle, oui, qui est rejeté par 75% des Français, mais un sympathisant RN sur deux souhaite qu'Éric Zemmour soit au second tour, 48%. Un pronostic qui est du même tonneau, hein, de presque 72% des Français pensent qu'Éric Zemmour ne se qualifiera pas au second tour. Mais ce qui est le plus intéressant, vous le disiez, Patrick, c'est ce match, oui, Zemmour-Le Pen. D'abord, ce qui frappe, c'est qu'on propose des traits d'image et auxquels s'applique le mieux ou Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Ce qui est intéressant, c'est que les Français renvoient négativement dos à dos Éric Zemmour et Marine Le Pen. Il ne faut pas oublier à quel point leurs images sont dégradées. Systématiquement, une majorité de Français se positionne sur l'item ni l'un ni l'autre. Maintenant, il y a deux niveaux de lecture. Auprès de l'ensemble des Français, Marine Le Pen devance systématiquement Éric Zemmour sur la compétence, sur la stature présidentielle, 23 contre 14, sur la capacité à réformer le pays, sur l'inquiétude, Éric Zemmour inquiète un Français sur deux. Par contre, et ça ne soit peut-être pas dans le sondage, auprès des sympathisants de droite, il y a clairement un avantage pour Éric Zemmour. Il apparaît plus proche des préoccupations des Français que Marine Le Pen, il apparaît plus compétent, il apparaît avec une meilleure stature. On voit très bien à quel point il y a un pouvoir d'attraction d'Éric Zemmour sur une partie de la droite.
Oui, c'est ça. Lydia Guirous, Christine Bouillot également avec nous, et puis vous, 0826-300-300, restez avec nous, Frédéric Dabi. Lydia Guirous, vous avez regardé cette étude. Qu'est-ce qui vous frappe, justement? C'est-à-dire que Zemmour, finalement, il réussit à faire adhérer, peut-être sur un constat. En revanche, il n'apparaît pas donc auprès des électeurs comme quelqu'un qui est en capacité de gouverner, quoi.
Oui, c'est ça qui m'a frappé. Effectivement, Éric Zemmour apparaît comme quelqu'un qui fait des constats, qui voit la réalité telle qu'elle est et qui le dit, mais pas comme un homme d'État, pas comme un homme qui sera capable de gérer le pays. J'ai été assez frappée parce que je trouve que les chiffres sont plutôt élevés sur cet item-là. Et également, le peu de souhait de le voir qualifié au second tour. Et puis l'inquiétude. Il semblerait qu'Éric Zemmour inquiète.
Ouais. Il suscite plus d'inquiétude
que d'autres. Est-ce que c'est parce qu'il traite de sujets qui inquiètent également beaucoup les Français, ou est-ce que c'est sa personnalité qui est très clivante, beaucoup dans la provocation qui génère cette inquiétude-là?
Ouais. C'est-à-dire qu'il a généré en fait un certain constat et puis il a animé le débat avec des étincelles, mais avec
beaucoup
un
de
certain
provocation,
de la provocation. Christine Bouillot, votre sentiment en écoutant Frédéric Dabi en fait à l'instant?
Oui, alors ce qui ressort, c'est que Éric Zemmour reste un polémiste, finalement, hein, ce qu'il a toujours été dans les yeux des Français. Donc peut-être qu'il a encore du chemin à parcourir pour devenir candidat et potentiellement candidat à la présidence de la République, ce qui implique donc de rassembler plus largement possible. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il reste dans cette position. Et ce qui est intéressant peut-être de regarder aussi ces dernières heures, ces derniers jours, c'est que désormais, alors qu'il n'est toujours pas déclaré, même si ça fait plus du tout l'ombre d'un doute, c'est que désormais, y compris par Marine Le Pen, je trouve qu'il est attaqué pour être un candidat. J'entendais encore Marine Le Pen ce matin qui disait que Éric Zemmour sur les retraites, c'était celui qui voulait faire travailler les Français le plus longtemps possible, autrement dit, qui allait faire mourir les Français au travail, en gros, c'est ce qu'elle disait. Hein. Donc on voit bien que désormais, c'est le candidat Zemmour qui est à attaquer de la part de tous les candidats, ou en tous les cas, tous ceux qui sont dans la campagne de la présidentielle.
Ouais,
donc aujourd'hui, il se retrouve dans une position où peut-être aussi que sur les plans de l'opinion, il se retrouve attaqué, alors que jusqu'à présent, tout le monde était un peu dans l'expectative, on ne savait pas trop ce que ça allait donner le phénomène Zemmour. Aujourd'hui, tout le monde l'attaque comme un candidat potentiel et dangereux.
Frédéric Dabi, est-ce que vous avez une référence? Parce que c'est vrai qu'avec Zemmour, on part un peu dans l'inconnu. Il n'y a pas sur l'échiquier politique de personnalité comme ça venue, j'allais dire, d'un monde complètement extérieur à la politique et qui émerge immédiatement. Vous avez quand même un certain nombre de références à travers vos études ou pas?
On en a parlé plusieurs fois. C'est vrai que ce qui est assez inédit dans le phénomène Zemmour, c'est qu'on n'avait jamais vu quelqu'un qui n'est pas encore candidat, comme ça a été dit tout à l'heure, et qui, n'appartient pas au sérail politique. Il était journaliste, polémiste. Alors, il y a bien sûr des points communs, hein. Jean-Marie Le Pen parlait d'établissement, mais en tout cas, c'est quelque chose de jamais vu. Par contre, ce qui est très intéressant de voir, c'est, ça a été bien dit par Christine Bouillot, d'un côté, maintenant, il rentre dans le rang, donc il se fait attaquer vertement, et puis deuxièmement, il y a eu des polémiques sur les propos concernant, devant le Bataclan le 13, est-ce que le coup d'éclat permanent, est-ce que la radicalité permanente paye dans une campagne présidentielle où le plus souvent les Français ne recherchent pas de la radicalité mais une certaine crédibilité. À qui va-t-on confier les clés de la Maison France? Et c'est vrai que ce match des traits d'image Le Pen-Zemmour, au-delà du fait qu'ils soient rejetés tous les deux, donne quand même un avantage pour Marine Le Pen, même si on voit bien, hein, c'est assez ténu cette attraction d'Éric Zemmour dans une partie de la droite. Dans notre dernière enquête IFOP fiduciale pour TF1, LCI et Sud Radio et Le Figaro, on voyait qu'il y avait un électeur fillon sur cinq qui était prêt à voter Zemmour en 2022.
Ouais. Lydia Guérousse, oui.
Oui, c'est vrai que les provocations permanentes d'Éric Zemmour, que ce soit sur les enfants Sandler, vous savez, qui ont été victimes du terrorisme à Toulouse, que ce soit sur le Bataclan ou les propos tenus sur Pétain, tout ça est un repoussoir et inquiète énormément, je pense, une bonne partie des Français, même ceux qui partagent ces constats sur l'immigration, l'islamisme. Et je trouve que quelque part, Éric Zemmour, qui dit être celui qui alerte depuis longtemps sur la possibilité d'une guerre civile, peut apparaître aussi aux yeux des Français comme un candidat qui va rendre cette guerre civile possible. Ouais. Parce qu'il clive tellement, alors que lorsqu'on vote pour un futur président de la République, on vote pour quelqu'un qui est capable de rassembler, de réunir, d'apaiser, de créer une forme de concorde. Et lui, on a l'impression qu'il va plutôt créer des déchirements, des fractures, de la division, voire des confrontations.
0826 300 300, il y a des réactions sur ce sujet. C'est Gérald qui est avec nous d'Auxerre, je crois. Bonjour Gérald.
Bonjour, vous allez bien?
Bien, et vous, mon cher?
Ça va, merci, ça va.
Bon, sur alors, ce sujet, oui.
Sur ce sujet, le seul point que j'accorde entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, c'est que ce sont deux personnes qui ne font que critiquer, je dirais, que ce soit la société ou le programme de tous les autres présidentiables, entre guillemets. C'est vrai que le seul avantage que je dirais que Marine Le Pen est là, c'est qu'elle a un physique. Éric Zemmour est très inquiétant. Moi, quand je le vois, il me fait penser à Gargamel, quoi. Il est très, très étonnant. Ouais, il a un regard... il inquiète beaucoup, je pense. Et puis, effectivement, dans les propos qu'il tient, on a l'impression que on peut déclencher à tout moment une vague de violence, etc. Ça, c'est inquiétant. Par contre, ce que je reproche, moi, à tous les autres présidentiables, c'est qu'ils critiquent effectivement que ce soit Le Pen ou que ce soit Zemmour, mais il faudrait peut-être qu'ils proposent simplement leur programme, montrer ce qu'ils ont envie de faire, et puis là, peut-être qu'on pourrait effectivement se dire, il y a au moins quelqu'un qui va sortir du lot. Parce que Éric Zemmour, il sort du chapeau, hein. C'est très bizarre. Ouais. On ne parle de lui, ça fait des semaines qu'on parle de lui. Ouais. Des semaines et des semaines. Ouais. Alors qu'il n'était même pas, normalement, il n'était même pas capable, dans sa tête, au départ, hein, de se présenter comme président. Ouais. Et là, on fait tout le contraire. Je pense que les médias ont fait une erreur gravissime. Alors, est-ce que c'est volontaire ou pas? Moi, j'en sais rien, je suis pas là-dedans. Ouais. Mais on le met sur toutes les chaînes, on le met sur les radios, on le met partout.
Ouais, ça a accentué, sans doute, quoi, ce phénomène Zemmour. Hein. Merci, Gérald, Frédéric Dabi et Christine Mouillot, une réflexion à ce sujet.
Oui, alors, il est sur tous les plateaux, mais c'est ce qu'il cherche. Regardez la séquence du Bataclan ce week-end, c'était quand même assez savoureux, pardonnez-moi, par rapport à la gravité du sujet, mais c'est le staff de campagne d'Éric Zemmour qui appelle les médias pour dire il va y avoir quelque chose du côté du Bataclan, il faut y aller, Éric Zemmour va s'exprimer. Et puis après, on voit Éric Zemmour devant une forêt de caméras et de micros qui regrette ou qui dit laissez-moi tranquille, je suis là pour me recueillir. Donc on voit bien qu'il joue, et il l'a toujours dit, il a toujours annoncé, je me souviens très bien, que c'était à lui d'imposer le tempo de campagne, les thématiques de campagne, et c'était comme ça qu'il allait se démarquer dans cette campagne de la présidentielle. Et pendant un certain temps, c'est certain aussi, c'est que tous les autres candidats ont suivi un peu le mouvement. Donc il focalise, il centralise. Jusqu'à quand, ça sera la grande question, effectivement. Est-ce que ça finira pas par lasser, finalement, les Français?
Allez, on va poursuivre dans un instant. Merci à vous, Frédéric Dabi.
Merci, à bientôt.
Alors, c'est vrai que ce que nous disait aussi dans l'édito politique ce matin, Lydia Guirous, c'est pas les LR qui vont changer les choses, telles qu'elle a vu, en fait, le débat hier soir. Cela dit, il y a encore du temps. On verra ce que ça va donner. Oui, bien sûr, encore de débats. Et puis ensuite, la campagne derrière. Nous allons y revenir, si vous voulez réagir dans un instant, 0826 300 300. On pourra aborder aussi les questions du Covid avec cette décision en Autriche, puisque c'est la question que l'on pose sur les réseaux sociaux. Cécile nous tiendra au courant juste après 9h aussi de ces deux questions que nous avons mis en ligne ce matin. Et puis
sur la mesure, on va revenir... de Carl Olive.
Oui, Carl Olive, le maire d'Hiver Droite que nous avions matin sur Sud Radio, qui dit qu'il va faire adopter ce soir par son conseil municipal une décision, une mesure pour les mariages, c'est-à-dire que les familles devront verser une caution de 1000 euros pour éviter ensuite qu'il n'y ait des dégradations, des problèmes, ou parfois certains qui
pour
disent...
Pour payer les dégradations.
Non, et puis certains qui disent, attendez, on va se marier, donc on vient samedi, et finalement, personne. Et il y en a qui n'ont jamais prévenu et qui devaient venir et qui ne venaient pas, qui annulaient ou alors qui arrivaient avec une heure de retard aussi pour certains. Donc il a dit écoutez, moi c'est plus possible en fait, évidemment je mobilise des gens. Oui, non, c'est pas la commune de payer, donc il demande une caution de 1000 euros. Vous avez vu qu'il y a eu déjà un certain nombre de mariages comme ça qui ont été perturbés ou qui ont perturbé aussi l'environnement. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez réagir, 0826 300 300. Nous en parlerons dans un instant.
À
avant de parler
suite.
Du climat avec Jean Jouzel qui sera avec nous en studio. C'est l'un des pères du GIEC et l'un des premiers à avoir alerté aussi sur le réchauffement climatique.
À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile Deménibus.
C'est la suite des grands débats à 9h04. Merci d'être avec nous, avec toujours Lydia Guirous et Christine Bouillot. Vous appelez 0826 300 300.
Oui.
Et dans quelques instants, Patrick, dans une quinzaine de minutes, on parlera de la COP26 avec Jean Jouzel, qui est climatologue, et Baptiste Denis, qui ont coécrit un livre sur le climat qui s'appelle Climat, parlons vrai, aux éditions de Pérégrine. Et puis vous pouvez nous appeler, bien sûr, si vous avez envie de parler de climat dans une quinzaine de minutes.
Oui. Est-ce qu'il est trop tard pour sauver justement la planète? C'est l'une des questions, et c'était l'un des enjeux de cette COP26 à Glasgow. Alors je sais qu'il y en a toujours certains qui sont aussi un petit peu sceptiques en disant mais est-ce qu'on n'exagère pas en fait un peu les choses? Eh bien on vous dira tout, parlons vrai justement, le titre de ce livre de Jean Jouzel qui sera avec nous tout à l'heure. Et vous pouvez, n'hésitez pas, si vous avez des questions même dérangeantes, eh bien vous n'hésitez pas, vous appelez 0826 300 300, on vous dira tout dans un quart d'heure jusqu'à 10h moins le quart avant La France à vos côtés avec vous, Cécile, sur la maladie de Charcot. Mais on va revenir avec vous, 0826 300 300, Lydia Guirous, Christine Bouillot, qui sont restées sur cette proposition qui vient de Poissy, du maire de Poissy, Carl Olive, maire d'Hiver Droite, qui ce soir au conseil municipal va faire adopter cette mesure, une caution de 1000 euros pour les futurs mariés. Pourquoi? Eh bien c'est parce qu'il y a trop de dégradations, d'insultes, de problèmes lors de mariages à répétition, et il a décidé d'appliquer cette mesure. Il sera sans doute suivi par d'autres élus, d'autres maires. Je sais qu'il y en a qui réfléchissent. Nous allons voir ça avec vous. Avant ça, le factuel, Félix Mathieu, la mairie donc décide de passer à l'action face à ces festivités qui dégénèrent de plus en plus souvent. Félix, des polémiques sur des mariages hors de contrôle qui se sont multipliées ces derniers temps et même ces derniers jours.
Ce week-end à Nice, un accident a fait un mort et 2 blessés lors d'un cortège de mariage. Une voiture qui a percuté un camion à l'arrêt, tuant un jeune homme de 19 ans expulsé d'une voiture. D'après la mairie, les voitures en fait, ont fait plusieurs allers-retours sur le boulevard avec des gens assis sur le rebord des fenêtres. Après le drame, en tout cas, la mairie de Nice a rappelé qu'une charte des mariages était censée permettre d'éviter ce genre de drame. Christian Estrosi qui en a appelé à la responsabilité des mariés pour contenir un peu leurs proches. Le mois dernier à Toulouse, un policier municipal avait été blessé alors qu'il tentait d'encadrer un cortège. Un motard l'avait heurté en roue arrière. Toulouse où, eh bien là aussi, la mairie avait dicté une charte des mariages pour éviter ces débordements à répétition. En mai dernier, le Républicain Lorrain rapportait qu'en Moselle, un mariage avait failli être annulé. Là, une demi-heure de retard, un cortège qui débarque en trombe, des dérapages sur les ronds-points, plusieurs accidents évités de justesse et une cérémonie qui avait failli dégénérer face aux menaces d'annulation du premier adjoint. Allez, dernier exemple, là, cet été, c'est la mairie de Bron, près de Lyon, qui annonçait se doter d'une charte des mariages en espérant, là encore, endiguer les désordres lors des cérémonies.
Oui, merci Félix Mathieu pour ce factuel. Si vous voulez réagir, donc n'hésitez pas, 0826 300 300. Lydia Guirouz, Christine Bouillot, est-ce que vous êtes surprise par ce type en fait de mesure et face à des choses qui dégénèrent lors des mariages qui doivent être un moment festif où on se contrôle quand même aussi,
et on respecte les autres et puis notamment l'institution. Non, je suis absolument pas surprise. C'est un véritable fléau que ces mariages qui se transforment en sorte de rodéo urbain où on bloque parfois l'accès à des routes, où on bloque la place devant la mairie, où on se fout complètement que l'autre mariage sera retardé, où les autres mariés ne pourront pas faire la photo sur le parvis. Enfin, il y a une monopolisation comme ça de l'espace public et une forme de manque de respect total, avec souvent des drapeaux étrangers aussi qui sont érigés comme si on avait besoin de sortir un drapeau à l'occasion d'un mariage. Je ne sais pas où cela se fait, mais en tout cas c'est un véritable fléau que les mairies essayent de combattre. Ils ont assez peu d'outils à leur disposition. C'est vrai que la mairie de Nice avait été en pointe sur ces questions-là.
Avec une charte, ouais.
Ça fait très longtemps. Et Estrosi avait été écrit. Christian Estrosi avait été assez caricaturé, puisqu'on lui disait que ça n'existait pas, que ce n'était pas un véritable problème. Et maintenant, beaucoup de mairies s'en saisissent. Ça peut être une solution, les 1000 euros, une forme
de caution. C'est une caution, hein, c'est comme
après,
un appartement.
Quand on voit le profil de ceux qui font ce genre de choses avec des voitures qui sont extrêmement chères pour les cortèges.
Oui.
Et je me demande si 1000 euros ce n'est pas rien, parce que voilà, souvent il y a quand même beaucoup
de dissuader ou permettre
beaucoup de délinquants.
Christine Bouillot,
oui.
Est-ce qu'on va trop loin dans les mesures, de telles mesures ou pas?
Bah, c'est-à-dire que peut-être qu'à force de faire des chartes, rappeler les gens à l'ordre, c'est toujours pareil, hein, c'est l'excès qui fait qu'à un moment donné, vous prenez des mesures qui peuvent paraître excessives, mais qui sont des mesures finalement pour essayer de faire entrer les gens dans la raison, dans un fonctionnement normal. C'est vrai que c'est pour les mairies un véritable casse-tête, hein, de pouvoir célébrer des mariages, comme le dit Lydia, qu'il n'y ait pas de retard, que ce soit pas non plus un défilé très sonore et puis surtout dangereux. Parce qu'effectivement, ce sont des défilés en pleine zone urbaine, en général le samedi après-midi, donc c'est là qu'il y a une forte affluence, et que tout ça, au bout d'un moment, c'est problématique, et que ce moment républicain doit le rester dans les règles qui sont établies pour à peu près que tout se passe bien pour tout le monde. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut trouver peut-être une solution. Il y a des chartes qui sont signées, comme on le disait à la mairie de Toulouse, les choses s'améliorent légèrement, mais s'améliorent seulement.
Ouais. Et vous parlez de la voie publique, mais Carl Olive parle aussi des dégradations à l'intérieur des mairies. Hein.
Oui, c'est ça.
Des chaises cassées, enfin voilà, donc, et même parfois des violences physiques envers...
Oui, il y a eu des agressions d'agents, bien sûr.
Ouais.
Moi, je me demande...
Il va y avoir des agents de la police municipale qui seront maintenant postés devant les mairies à l'occasion de ces mariages.
Le niveau d'incivilité, le niveau de mépris pour l'autre, pour l'institution, c'est surréaliste. Moi, je me demande s'il ne faut pas en arriver finalement à annuler les mariages qui ont fait qu'il y a eu des dégradations.
Ah bah c'est difficile parce que annuler le mariage
annuler le mariage après et que les mariés soient responsables aussi de leurs invités, parce que c'est trop facile de dire non mais nous sommes les mariés, on sait pas, ce sont les invités qui sont comportés comme ça. Et on peut prévenir les invités, on peut leur dire vous ne faites pas ça, il y a pas de youyou, il y a pas de dégradation, il y a pas d'orchestre qui n'en finit pas devant la mairie, il y a pas de cortège avec des gens qui sont assis sur les portières.
Youyou, ça peut être une célébration,
sûr,
ça c'est autre chose.
Mais
quoi.
On peut le faire
c'est comme
à
les applaudissements.
Très bien, mais raisonnablement, c'est toujours une question de mesure. Et puis surtout, on ne monopolise pas le parvis de la mairie parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Mais l'annulation, ça peut être, à mon avis, l'un des moyens les plus efficaces.
Ouais. Christine Bouillot.
Oui, alors, ce qui se passe aussi, je prends encore l'exemple de la charte qui a été signée, enfin qui est proposée pour les candidats au mariage, c'est qu'en cas de retard au-delà de 30 minutes sans avertir la mairie, eh bien, il n'y a pas de mariage. Voilà, comme ça.
Ah oui, ça c'est...
Ça permet effectivement d'éviter...
Comme chez le
médecin. Exactement. C'est une question de politesse, parce que les mariages s'enchaînent les uns après les autres et que chacun veut pouvoir célébrer ça en toute sérénité avec ses proches et que ça... Voilà, on vit avec les autres. Donc c'est une
Vous avez
vraie,
raison.
Vraie question.
Oui, c'est de plus en plus fréquent. Ces retards, quoi. Un quart d'heure, un quart d'heure, ça passe encore. Bon, même si on sait que derrière, ça peut être à la chaîne, s'il y a des mariages. Mais une demi-heure,
si tout le monde
dépasse
un quart d'heure, vous mariez à minuit.
Et il y en a, Carl Olive nous racontait ce matin, vous pouvez le réécouter sur les réseaux sociaux, il nous racontait ce matin qu'il y a même des moments où les mariés ne sont pas venus. Tout était prévu, il y avait une confirmation la veille. Non, mais je ne sais pas. Bon, voilà,
ils ont changé d'avis.
Non, mais c'est vrai, d'où son idée de caution de 1000 euros.
Peut-être qu'il faut faire signer des...
Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Des petits courriers de bonne conduite.
Oui, vous pouvez réagir, laisser en fait des messages. Merci en tout cas pour ce factuel, Félix, Mathieu, et Lydia Guérouis et Christine Bouillot. Sur nos questions du jour, avant de passer à nos invités, Jean Jouzel qui va être avec nous et Baptiste Denis pour revenir sur la COP26 et puis surtout sur le réchauffement climatique. Cécile, donc nous posions ce matin deux questions.
Oui, sur le reconfinement, vous savez, puisque l'Autriche va reconfiner tous les non-vaccinés. Et voilà, on vous posait cette question. Est-ce que, selon vous, c'est un exemple à suivre ou un choix contestable? Ou alors vous êtes sans avis? Pour l'instant, vous dites que c'est un véritable choix. C'est un choix contestable à 90%, avec Plus Jamais qui nous dit « Il paraît néanmoins nécessaire de rappeler que l'injonction n'empêche pas les contaminations et la propagation. » Néo nous dit que c'est une infamie. Vous dites « Pendant ce temps-là, Jimmy Fallon aux États-Unis fait son show normalement, sans masque, et il embrasse ses invités. » C'est vrai que c'est un peu de poids de mesure.
Ah la télé française aussi, quoi, bien sûr. Oui, il y a ce genre de choses. Ouais, donc vous pouvez continuer de voter. Et l'autre sujet du jour, qui concerne cette fois Éric Zemmour, avec ses déclarations devant le Bataclan, est-ce que c'est une récupération politique? C'est la question que l'on vous pose.
Clairement non, sur les réseaux sociaux. C'est 75% de non, où vous dites qu'Éric Zemmour fait une analyse lucide de la situation. La guerre sur notre sort, c'est le sens de l'histoire, et nous n'agissons pas et continuons d'accueillir un peuple qui nous est hostile. David nous dit, comme bien souvent malheureusement, mais ils font tous de la récupération à un moment ou un autre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont tous coupés des réalités.
Merci. Allez, on poursuit dans un instant avec Parlons Vrai. Tiens, c'est le même slogan que Sud Radio. Oui. C'est Jean Jouzel. Il sera notre invité avec Baptiste Denis. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h18, c'était la fin, le 12 novembre de la COP26. On en parle ce matin surtout d'un livre qui s'appelle Parlons Vrai, Climat Parlons Vrai, aux éditions Les Pérégrines, avec Jean Jouzel qui est avec nous, climatologue. Bonjour. Vous nous entendez,
oui,
Jean Jouzel?
Jean Jouzel, dans un instant, qui règle en fait un peu le micro.
Voilà, qui règle le micro. Et Baptiste Denis, qui est conseiller municipal délégué à la transition écologique de la Garenne-Colombes, et co-auteur bien sûr de ce livre aussi, et journaliste. Bienvenue.
Oui, merci. Alors ce livre, c'est un dialogue, avant tout, avec Jean Jouzel, entre l'ancien et le jeune, quoi. Hein, le plus ancien, Jean Jouzel, vous me pardonnerez cette expression, vous êtes en ligne
deux
avec
générations.
Nous. Oui, Jean Jouzel. Ah voilà, qui ne nous entend pas, qui est par liaison. On va le rappeler en fait dans un instant. On va revenir sur l'idée, Baptiste Denis, de ce livre. Donc vous êtes beaucoup plus jeune que Jean Jouzel. Il avait commencé ses travaux, vous n'étiez pas né évidemment. Mais vous avez eu envie d'entamer un dialogue avec lui, que l'on retrouve dans ce livre. pour savoir ce qui était vrai, faux autour du réchauffement climatique, d'où ce titre Parlons Vrai, le même slogan que Sud Radio. Hein.
Exactement, oui, c'est un petit clin d'œil à votre radio. En fait, l'idée de ce livre, c'est que c'est deux générations qui ne se parlent peu ou pas, finalement. Et c'est deux générations qui s'expriment pour le climat. Mmh. Vous avez remarqué que depuis quelques années, il y a quand même des voix grandissantes qui s'expriment pour la lutte contre le réchauffement climatique. En premier lieu, il y a les scientifiques. Ouais. Ça fait 40 ans qu'ils parlent. Si vous allez sur le site de l'INA, vous écoutez Jean Jouzel, il dit la même chose qu'aujourd'hui, quasiment mot pour mot. Et il y a les jeunes aussi, qui sont dans la rue, qui sont aussi parfois dans les conseils municipaux, qui essayent de donner la voie pour lutter contre le réchauffement climatique. Et l'idée de ce livre, en fait, c'était de confronter. Alors finalement, la confrontation est devenue un petit peu un dialogue, alors je ne dirais pas consensuel, mais presque, parce qu'au final, avec le réchauffement, on finit par se retrouver. C'était l'idée de retrouver deux générations autour d'un thème commun, puisque les générations, comme je vous disais, ne se parlent pas forcément, ou pas bien, en tout cas. Et le climat, c'était l'occasion de faire le lien entre nos générations.
Alors, vous étiez avec Jean Jouzel, Baptiste Denis, à Glasgow.
Oui.
Parlons-en un instant. Il y a un sentiment déception de beaucoup qui étaient là-bas. Pourquoi ? Parce que ça se joue à peu de choses, parfois, pour limiter le réchauffement climatique, ce que nous dira Jean Jouzel dans un instant. Hein.
Alors au-delà de la déception, c'est peut-être même un peu de frustration, ouais. Je dirais, parce que la COP26, officiellement, elle s'est terminée vendredi, mais c'est elle-même terminée samedi, finalement, samedi soir, puisque les négociations ont traîné. Et donc, il y a eu un accord, puis un deuxième, il n'y a pas eu de consensus qui a été trouvé, et au final, au bout du troisième, il y a la sortie du charbon, le terme sortie est très important, qui était inscrit, et l'Inde et la Chine ont levé la main au dernier moment pour dire, nous, on ne veut pas sortir, on veut réduire. Donc vous avez sûrement vu les larmes d'Alok Sharma.
Oui, oui, on les a passées ce matin, oui.
Voilà, et donc,
c'est le président de la
COP 26, ouais. Exactement. Et donc, finalement, la fatigue, la frustration, la volonté d'avancer également ont fait que nous avons gardé ce terme de réduire et non pas de sortir. Donc, à la fois, c'est pas forcément de la déception, parce que pour la première fois de l'histoire des COP, le terme des énergies fossiles est rentré dans l'accord. Donc, ça, c'est quand même une première victoire. En revanche, il y a une frustration parce qu'elles auraient pu être incluses d'une manière un petit peu plus forte.
On a l'impression que, en pleine période de Covid, on a vu des médecins dans les médias. On a l'impression que hors COP26, finalement, les scientifiques ne vont pas dans les médias et qu'on n'explique pas le climat et qu'il n'y a pas de pédagogie pour dire bah là, pourquoi il y a des inondations, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Est-ce que vous avez l'impression justement qu'on ne laisse pas la parole à ces scientifiques ?
Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Pour moi, les scientifiques devraient avoir une place beaucoup plus prépondérante. Alors Jean répondra tout à l'heure. Oui. Lui, dans la place politique, il est un peu plus pondéré.
Oui, il est là.
Mais c'est vrai que moi, quand même, l'été dernier, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu beaucoup de scientifiques dans les médias à cause de ce qui s'est passé au Canada, de ce qui s'est passé en Chine, en Allemagne, etc. Il y a eu quand même un peu de pédagogie pour expliquer en quoi l'intensification des conséquences du réchauffement climatique allait s'aggraver au fil des années. Après, moi, j'aimerais même aller encore plus loin. Moi, j'aimerais qu'ils aient un rôle presque politique. C'est-à-dire que...
Comme en Grande-Bretagne ou aux États-Unis ?
Exactement. Ouais. Ce sont deux exemples criants puisqu'ils ont un chief scientist qui conseille justement le chef de l'État, donc Premier ministre et Président. C'est quelque chose qu'on pourrait imaginer en France, même si on a le Haut Conseil pour le climat, mais qui est quand même un peu moins puissant.
Oui, et puis, alors, non, mais ce qu'il faut dire, c'est que les scientifiques, on leur donne quand même la parole depuis 30-40 ans. Jean Jouzel en est l'illustration vivante, en fait, avec nous. On lui donne la parole, mais en revanche, on n'est peut-être pas bien entendu et bien perçu. Jean Jouzel, est-ce que c'est le sentiment où, pendant des années, vous avez eu l'impression de prêcher un peu dans le désert ?
Oui, bonjour à tous et à toutes. Oui, prêcher dans le désert. Oui, pendant de nombreuses années, j'ai commencé à parler dans les médias dans les années 80,
ouais.
Je crois avec un discours, avec une continuité dans le discours par rapport aux risques posés par les activités humaines, par rapport au réchauffement climatique. Mais il a fallu attendre, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, il faut vraiment attendre que le réchauffement climatique, les conséquences du réchauffement climatique soient déjà visibles pour que soit pris au sérieux, alors que, de façon très claire, ce que nous avions envisagé il y a 30, 40 ans, c'est ce qui se réalise aujourd'hui. Moi, donc, ce que j'invite à faire, c'est vraiment à prendre au sérieux les projections des scientifiques et donc ces risques posés par le réchauffement climatique.
Ouais.
Alors je reviens sur ce qu'a dit Baptiste, effectivement dans un rapport du Conseil économique, social et environnemental dont j'étais membre pendant 10 ans, nous avons recommandé pour la France la mise en place d'un chief scientist, comme c'est le cas au Royaume-Uni et et aux États-Unis. Voilà, donc il y a eu la mise en place du Haut Conseil pour le climat qui vaut que pour le climat, mais ça vaudra, je pense, le chief scientist sur l'ensemble des disciplines. Évidemment, c'est pas un seul homme, c'est aussi toute une équipe, mais je crois que ce serait important d'avoir plus de place pour la parole des scientifiques dans la vie politique d'un pays. Et c'est le cas dans d'autres pays, ce n'est pas le cas en France.
Oui. Jean Jouzel, par rapport à la COP26 et à ce qui s'est décidé en fait à Glasgow, vous insistez beaucoup, et d'ailleurs vous en parlez en fait dans le livre, ça se joue à peu de choses, hein, bien souvent. Un demi-degré de plus ou de moins, et c'est des conséquences très fortes, hein, sur l'ensemble de la planète. Parfois pour des villes, des régions qui pourraient disparaître, être submergées par les eaux. Là, qu'est-ce que vous espériez de cette COP26 de façon très concrète, hein, pour les auditeurs, et malheureusement, qu'est-ce que vous n'avez pas obtenu ? Enfin, vous, je dis. Alors, en fait, la communauté.
De façon très concrète, je crois que le message des scientifiques a été entendu, c'est-à-dire qu'à Paris, nous parlions des 2 degrés,
ouais,
et à Glasgow, nous parlions d'un degré 5. Pourquoi ? Parce qu'entre les deux, en 2018, il y a eu ce rapport sur le climat à 1,5 degré qui montre que 1,5 degré, ça compte. Entre 1,5 degré et 2 degrés, eh bien, ce sont beaucoup plus d'événements extrêmes, mais aussi 10 millions d'habitants de plus qui, à la fin du siècle, seraient affectés par l'élévation du niveau de la mer. Pratiquement au-delà de 2 degrés, tous les récifs coralliens seraient affectés par le blanchiment, alors qu'à 1,5 degré, on peut espérer en sauver une partie, au moins un quart. Ce sont aussi disons, la productivité agricole, les ressources halieutiques qui sont moins affectées à 1,5 degré qu'à 2 degrés. Donc, c'est toute la vie de la planète, et vraiment, 1,5 degré, ça compte. C'est ça le message. Et ce message a été, d'une certaine façon, bien accepté, puisque on parle maintenant de 1,5 degré. On parle aussi de
d'une limitation, hein, d'une limitation de la hausse des températures d'1,5 degré, quoi, et de ne pas aller jusqu'à 2, et je ne parle pas de 3 ou 4, quoi, qui est même envisagé.
Oui, bien sûr. Ouais. C'est ça le message. Plus près on sera de 1,5 degré, mieux ce sera pour les jeunes d'aujourd'hui. Il s'agit vraiment de la capacité d'adaptation. Sommes-nous capables de laisser une planète, ma génération, vis-à-vis des jeunes comme Baptiste, seront-ils capables de s'adapter au réchauffement climatique ? Oui. Peut-être en France, 1,5 degré de plus, mais beaucoup de pays sont extrêmement vulnérables. Alors, c'est ça l'objectif. Alors, il ne s'agit pas des générations futures, mais des jeunes d'aujourd'hui.
Oui, des jeunes d'aujourd'hui et sur l'ensemble de la planète. C'est ça qui est difficile, c'est de mettre tout le monde d'accord. Baptiste le disait très bien tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, bah, tout le monde était plus ou moins d'accord pour sortir du charbon, progressivement qu'on en sorte, parce qu'on sait que c'est un effet polluant terrible, hein, bien sûr, quoi, et que là, ça agit bien sûr sur le réchauffement. Et puis, à dernière minute, la Chine, l'Inde, la Chine qui, à chaque fois... À Paris, c'était la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'elle a du mal quand même à se plier à ce qu'on lui demande, quoi.
Oui, c'est vrai, mais il faut voir aussi, disons, je suis d'accord avec ça, j'aurais préféré que le texte ne soit pas amendé,
ouais,
mais singulariser le charbon dans l'élimination du charbon et en gros ne pas éliminer le pétrole et le gaz, ne pas avoir le même objectif, était aussi un peu discriminatoire par rapport aux pays utilisateurs de charbon. Donc, c'est aussi cela le problème. Donc, il aurait fallu peut-être alors dire qu'effectivement, il faut vraiment éliminer l'ensemble des combustibles fossiles, pas simplement le charbon.
Ouais.
Donc, évidemment, on parle des subventions aux combustibles fossiles, mais on parle bien du charbon. Donc, c'est vrai que les pays utilisateurs de charbon se sont sentis peut-être un peu visés. Donc, ça aurait été bien, mais voilà un peu la... Il ne faut pas non plus toujours accuser les autres. Il faut voir aussi le texte tel qu'il était.
Oui. Bah alors, que faire ? C'est ce qu'on va voir dans un instant avec vous, Baptiste Denis et Jean Jouzel. Comment faire, justement, si on se passe de toute l'énergie fossile, c'est-à-dire ce qui nourrit la planète depuis maintenant un siècle, en fait, notre développement, l'ensemble des activités, comment faire ? Est-ce que le nucléaire, par exemple, c'est une solution ? Tiens, bah, on va en parler dans un instant. Parlons vrai sur Sud Radio. Parlons vrai, c'est le titre aussi de ce livre Climat. Jean Jouzel, Baptiste Denis, je vous le recommande.
Oui.
Parce que c'est... En plus, c'est facilement accessible. C'est une discussion. Donc, alors, parfois, c'est un petit peu scientifique, mais pas trop, parce qu'il y a
ça nourrit.
Il y a, entre guillemets, les légendes, quoi. Oui. Hein, il y a des petites parenthèses pour tout comprendre. Allez, on est ensemble encore quelques minutes.
À tout de suite, il est 9h29.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h33, de retour de la COP26 à Glasgow avec nous Jean Jouzel, climatologue et co-auteur avec Baptiste Denis de ce livre Climat, parlons vrai aux éditions Les Pérégrines.
Oui, Baptiste Denis, vous posez des questions cachées et simples finalement que tout le monde devrait se poser à Jean Jouzel, sauf que là vous avez un scientifique éminent qui vous répond sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour limiter en fait tout ça, sur le transport, sur l'industrie. Pourquoi ? Parce que vous-même vous avez été interpellé par ça, en vous disant, mais dans quel monde vivrons-nous demain ?
C'est exactement ça. Au début, c'est une prise de conscience grandissante, petit à petit. On commence à se poser des questions, on regarde le monde autour de nous. Et ensuite, l'idée, bon, c'est aussi ma formation de journaliste, de vouloir demander aux sachants, entre guillemets, ce qu'ils en pensent. Bon, tout le monde ou presque connaît Jean Jouzel dans le milieu. Donc voilà, on a commencé à en discuter. Et puis petit à petit, je me suis dit, tiens, on pourrait peut-être creuser un petit peu le champ des possibles. C'est vrai que quand on lit la presse au fur et à mesure des journées, on apprend un petit peu sur ce qui se passe, notamment sur la COP26, mais ce serait peut-être pas mal aussi d'en faire un livre. Et puis j'avais beaucoup de questions, et c'est l'occasion aussi d'avoir un dialogue un peu plus informel.
C'est vrai.
Voilà, c'est vrai, quand on parle avec un ton journalistique dans la presse, bon, voilà, c'est très sérieux, on va dire. Donc là, on a un dialogue très sérieux également, mais on se permet aussi quelques petits éléments de vulgarisation, et ce qui permet de rendre le livre aussi très accessible à tout le monde.
Très accessible, et de comprendre quels étaient les enjeux de la COP26 à Glasgow et les questions qui étaient vraiment sur la table, quoi. Jean Jouzel, par exemple, donc on le disait juste avant la pause, il faudrait, par exemple, progressivement sortir du tout fossile, c'est-à-dire le charbon, le gaz, le pétrole, etc. Évidemment, c'est compliqué parce que nos sociétés fonctionnent à partir de ça. Et vous êtes assez radical quand même, hein, Jean, dans le livre en fait, de Baptiste Denis.
Oui, par rapport à, donc, disons, par rapport aux solutions, moi ouais. J'ai été très attaché. Alors, il y a deux types de solutions. Et les solutions, j'ai participé à la Convention climat des 150 citoyens, il y a de très bonnes suggestions dans tous les domaines, se nourrir, se loger, se déplacer, oui. Et je regrette qu'elles n'aient pas été prises en compte. Alors, dans cette Convention climat, on ne parle pas, par contre, de ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire l'énergie elle-même. Oui. Et là, bien sûr, il y a eu le rapport récent de RTE, oui. Du réseau transport d'électricité, et donc je dis aussi dans le livre qu'il me semble assez difficile de passer complètement du nucléaire, mais ce que je retiens de ce rapport aussi, et ce qui est très important, c'est la recommandation qu'il fait d'accélérer la mise en œuvre du renouvelable. C'est aussi ça le rapport, je crois que c'est très important. On n'y arrivera pas à neutralité carbone si on ne respecte pas les engagements que nous avons pris en renouvelables, par exemple 32% de renouvelables pour l'électricité en 2030. Oui. Et ça, c'est un message important de ce rapport.
Oui, sauf qu'on ne peut pas s'appuyer que sur le renouvelable. Vous le savez, Jean Jouzel, c'est quand même extrêmement compliqué. On l'a vu chez nos voisins allemands, par exemple, à un moment donné, ils ont dit, voilà, on va sortir du nucléaire, on va s'appuyer un peu plus sur le renouvelable, et puis finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise beaucoup le charbon, quoi.
Oui, en Allemagne, la part du renouvelable a quand même augmenté. Donc, oui. Je pense, moi, que le rapport de RTE est tout à fait bien construit. Il y a six scénarios, dont cinq ont une part de nucléaire. Oui. Donc, je respecte ce diagnostic. Chacun y trouvera aussi, je crois, ce qu'il cherche. Hein, donc, parce que le scénario entièrement renouvelable est également analysé. Donc, je retiens aussi c'est évidemment la relance du nucléaire qui est examiné à différents niveaux, mais je retiens aussi, et c'est ce qu'il faut redire aussi, c'est le développement nécessaire du renouvelable qui est aussi dit dans ce rapport, oui. Que beaucoup de gens oublient.
Oui. Et finalement, la solution, elle passe par aussi les progrès de la science, même si parfois la science peut être un peu dangereuse, entre guillemets, parce qu'évidemment, il peut y avoir des dérives, mais c'est ce que vous dites à travers aussi, dans cet entretien avec Baptiste Denis, hein, Jean Jouzel, et ça passe probablement par du mix énergétique, c'est-à-dire que d'un côté, on aura du renouvelable, voilà. Et puis d'autres, de nouvelles technologies, où on va pouvoir peut-être récupérer le CO2 dans l'atmosphère, on pourrait le recycler, enfin, il y a plein de choses comme ça, quoi.
Oui,
pour terminer sur une note d'espoir quand même, mon cher Jean.
Oui, je crois. Alors, je vais terminer sur une note d'espoir parce que je pense vraiment que l'innovation est très importante.
Oui.
L'innovation, mais l'innovation n'a de sens que si elle est évaluée par rapport à l'objectif de neutralité carbone. Donc, je suis vraiment l'innovation, la recherche, l'inventivité, et ça, c'est très attractif pour les jeunes d'aujourd'hui. Il faut surtout innover, mais à chaque fois, regarder par rapport à cet objectif de neutralité carbone, si cette innovation peut s'inscrire dans cet objectif. Et ça, c'est important. Mais surtout, je dis aux jeunes, allez-y, réfléchissez au monde de demain. C'est un peu ce qu'on a dit aussi, ces créateurs d'emplois, cette, disons, ce changement de mode de fonctionnement de société. Donc, il ne faut pas être pessimiste, je veux dire. Mmh. Je crois que le monde sobre en carbone est attractif pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est ça que je souhaite dire.
Ouais. Baptiste Denis. Non, vous êtes un peu sceptique. Quand on dit oui, il y a des solutions, on peut s'en sortir.
Je me méfie un peu du solutionnisme parfois. Ouais. C'est-à-dire que.
Sinon, l'humanité ne serait plus là.
Entièrement d'accord avec vous. Après, je me méfie des technologies qui ne sont pas encore aujourd'hui abouties et dont on parle pour 2050. Il y a des technologies qu'on maîtrise aujourd'hui. Vous parliez du nucléaire, du renouvelable. Moi, je suis extrêmement.
D'autres, bien sûr.
Ah oui, oui, il y en a d'autres. Par exemple, je suis très attiré par l'hydrogène, l'avion pas carbone, ces choses comme ça. Sauf que pour le moment, ce n'est pas encore à terme. L'hydrogène, il est fait à partir d'énergie fossile. L'avion bas carbone, s'il arrive en 2050, ça veut dire que tous les avions qu'on achète aujourd'hui, ça reste des avions thermiques. Et voilà, avec l'inertie climatique de 20-25 ans, ça veut dire qu'on a encore un problème pour la deuxième partie du siècle. Donc ce solutionnisme, j'y crois, je tiens à l'innovation, je pense qu'il faut avancer dans la recherche en France, que nos chercheurs partent à l'étranger justement parce que la recherche n'est pas encore assez attractive en France et qu'il faut la rendre attractive. Mais voilà, j'ai juste un tout petit point d'interrogation sur ces choses-là.
J'aimerais avoir votre avis sur quelque chose dont on a beaucoup parlé là, ces derniers jours, et j'ai l'impression qu'on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'on est en train de remettre les zeppelins, vous savez, ces fameux ballons dirigeables, pour pouvoir transporter en fait énormément de matière, voire des gens. Il y a 20 ans, dans le livre, vous y aviez participé, Imagine la France de nos enfants, je disais, on arrête les avions, on met des zeppelins. Là, on est en train de le refaire, mais alors, pour exploiter nos forêts, certains disent, c'est très bien, on pourra, par exemple, transporter en fait, le bois, venir le chercher en Europe pour le transporter en fait, ailleurs.
Ça peut marcher sur la tête, disons que... Il faut au contraire relocaliser nos économies.
Eh oui.
C'est relativement important, en tout cas par rapport à l'utilisation de la biomasse, ça me semble tellement évident. Et puis, il y a aussi ce lien très fort qui a été beaucoup exprimé aussi à Glasgow entre vraiment cette exploitation de la nature et la protection de la biodiversité des écosystèmes qui doit rester au cœur de notre stratégie également. Et ça, je crois que c'est souvent oublié et je ne crois pas que ce soit les esplines qui, aideront à respecter la biodiversité.
Totalement. Non, mais ça fait partie ces illustrations. Bon, en tout cas, tout le travail que vous avez effectué depuis 40 ans n'est pas vain quand même, Jean Jouzel, puisque la preuve en est, c'est qu'il y a du travail, et puis il y a des jeunes en fait qui vous suivent, etc. Et après, ça suscite des interrogations. C'est comme ça aussi qu'évolue évidemment l'humanité en passant par des débats. Merci Baptiste Denis, Jean Jouzel, Climat, parlons vrai, ce livre qui est aux éditions Les Pérégrines.
Absolument, à voir sur votre table de nuit. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Et dans un instant, on va parler d'une maladie très compliquée. C'est la maladie de Charcot. On sera avec une aidante dont le mari est atteint de cette maladie. Et puis avec la présidente de l'Association pour la recherche de la sclérose latérale amyotrophique, qui est justement la maladie de Charcot. Vous voulez en parler, 0826 300 300. Vous attend au standard. À tout de suite.